C'est-à-dire, la philosophie se développe, comme nous le verrons du reste à la fin de ces cours, se développe dans des perspectives diverses. Philosophie pratique, philosophie dite spéculative, qui atteint au sommet une sagesse. Le propre de la sagesse, c'est de se critiquer, c'est-à-dire d'avoir cette auto-lucidité qui lui permet de se critiquer, c'est-à-dire de préciser à chacun des moments de sa démarche où elle se situe par rapport à la connaissance de l'homme, par rapport à la connaissance de l'univers. Cette connaissance critique, normalement, comprenez bien, elle est coextensible à tout le développement de la philosophie. Mais elle ne peut se faire parfaitement qu'au terme. C'est pour ça que je disais, c'est la philosophie sagesse qui vraiment peut nous donner une critique. Quand je dis que la connaissance humaine et philosophique est auto-lucide, c'est-à-dire qu'elle a conscience de son cheminement et elle doit pouvoir comprendre à chaque instant ce que représente sa connaissance propre et les méthodes qu'elle emploie. Elle doit pouvoir réfléchir sur son propre développement. Est-ce un développement dialectique? Est-ce un développement d'analyse, de recherche? Est-ce un développement de déduction? Et ainsi de suite. Elle doit avoir cette possibilité dans cette auto-lucidité qui est, je crois, la condition, comme nous le verrons la fois prochaine, de la connaissance intellectuelle, et d'une connaissance intellectuelle parfaite. Une connaissance intellectuelle qui est en recherche n'a pas cette auto-lucidité. Mais c'est une connaissance intellectuelle qui atteint sa perfection, qui peut avoir cette auto-lucidité. Quand elle est imparfaite, elle est très liée à tout l'imaginaire. Nous aurons l'occasion de le voir. L'imaginaire, ça nous porte beaucoup, ça nous aide énormément. Quand cet imaginaire est vraiment au service de l'intelligence, ça nous permet certaines intuitions. C'est agréable, parce que ça nous permet de dépasser certains raisonnements pénibles, mais on ne peut jamais s'appuyer d'une façon absolument sûre dessus. C'est pour ça qu'une intelligence trop liée à l'imaginaire, un imaginaire qui n'est pas entièrement dompté, ce n'est pas une intelligence qui peut être parfaitement autolucide. Une intelligence trop mêlée à l'affectivité, comme nous aurons l'occasion de le voir, est une intelligence qui n'a pas non plus cette autolucidité. Vous voyez, nous avons des quantités d'a priori. Et au fond, la plupart du temps, nous ne faisons pas tellement, n'avons pas tellement conscience de ces a priori. Nous ne nous arrêtons pas suffisamment, ce qui fait qu'on peut blesser, qu'on peut avoir un caractère trop impératif, trop rude, à l'égard d'un dialogue avec d'autres qui n'ont pas tout à fait les mêmes pensées que nous. La philosophie devrait normalement faire tomber tous ces a priori. Si on est à la recherche de la vérité, tous ces a priori devaient être dépassés. Ils ne sont jamais totalement dépassés. On en a toujours un tout petit peu. Mais au fond, on lutte contre tous ces a priori. On essaie de mieux saisir la vérité. Ces a priori empêchent l'autolucidité. C'est tout l'aspect affectif, volontaire, qui est là, qui nous arrête. Cette autolucidité est donc une condition nécessaire pour qu'il puisse y avoir ce que j'appelle une connaissance critique. Ce qu'on appelle d'une façon générale une connaissance critique. Dans la connaissance critique, on a un nouvel objet. La connaissance atteint autre chose que dans une connaissance philosophique proprement dite. Tandis que l'autolucidité me donne conscience de ce que je connais, ne me donne pas un nouvel objet de connaissance. Je suis simplement attentif, et particulièrement attentif à ce que je connais. Donc l'autolucidité permet une pénétration plus grande. On essaiera de comprendre comment on peut expliquer cette autolucidité à l'intérieur de la connaissance intellectuelle. Tandis que dans la connaissance réflexive et critique, il y a un nouvel objet. L'intelligence s'intéresse à autre chose qu'à l'homme. Si on peut dire que d'une certaine manière, la philosophie cherche à connaître toutes les grandes dimensions de l'homme. Nous avions vu un peu les années précédentes, les sept grandes dimensions de l'homme. Je crois qu'une anthropologie réaliste aboutit à découvrir qu'il y a sept dimensions dans l'homme. C'est du reste très beau. C'est comprendre la complexité et l'unité de l'homme. L'homme face à l'univers, l'homme face à l'homme, l'homme dans sa recherche du transcendant. Alors, vous dites trois dimensions, oui. Mais à l'intérieur de ces trois dimensions, il y a des sous-dimensions qui permettent de fait de reconnaître qu'il y a sept dimensions. Je recherche donc toujours à connaître l'homme face à l'univers, face à l'homme ou face au transcendant dans la mesure où il peut l'atteindre, à la réalité première que les traditions religieuses appellent Dieu. Dans la connaissance critique, c'est-à-dire dans la connaissance réflexive, ce que je regarde, c'est le problème de la connaissance. Ce n'est plus l'homme que je regarde, mais c'est la complexité de ma connaissance humaine. Et je me demande, cette complexité peut-elle avoir une certaine organisation, une certaine harmonie, un certain ordre? Et puis ensuite, j'essaie de découvrir quel est le point fondamental de toute ma connaissance philosophique et même de toutes mes connaissances humaines, intellectuelles. Donc vous voyez que la démarche de la philosophie critique est une démarche réductive, alors que je crois que la démarche de la philosophie qui recherche l'homme n'est pas proprement dite une démarche réductive. C'est une démarche qui essaie d'analyser. L'analyse n'est pas une réduction, au sens propre. Si on essaie de comprendre vraiment ce que c'est que l'analyse, on cherche à découvrir un principe, ce qui résiste à l'analyse. Tandis qu'au contraire, la réduction aboutit à un élément. Il y a une petite distinction entre principe et élément. Parce que le principe, c'est quelque chose d'indivisible, c'est une source de connaissance, c'est quelque chose de premier, dans l'ordre de la connaissance, comme dans l'ordre de la réalité, comme dans l'ordre des opérations vitales. Mais quand je découvre l'âme, par exemple, je ne dis pas que l'âme est un élément. Je ne dis pas que je découvre l'âme d'une façon réductive. Je découvre l'âme ou par une première connaissance affective. Il faut s'aimer pour se découvrir. C'est très curieux. Et il y a une première connaissance affective de l'âme. C'est la connaissance de mon intériorité. J'ai une connaissance de mon intériorité. Quand je regarde à la glace, je sais très bien que je ne connais pas mon intériorité. Je me dis, comme ça doit être drôle pour les autres de me regarder comme ça. Parce que moi, je ne me regarde pas normalement toujours dans la glace. Hein. Je regarde plutôt les autres. C'est plutôt normal. Hein. Et je sais que j'ai une connaissance intérieure qui est tout autre que ce que les autres voient. La connaissance d'intériorité, de mon intériorité, me fait prendre conscience qu'il y a en moi une source d'intériorité, que j'appelle l'âme, selon les traditions religieuses. Le mot âme et le mot Dieu, ce sont des mots qui proviennent des traditions religieuses. Les philosophes les ont introduits dans leur philosophie, mais en les empruntant aux traditions religieuses. C'est très curieux, c'est très intéressant de voir les mots que la philosophie emprunte aux traditions religieuses. De fait, l'âme, je la saisis comme source de toute ma vie. Et puis je peux essayer d'avoir une connaissance plus précise pour découvrir l'âme comme principe, comme cause de toutes mes opérations vitales. Alors c'est un procédé inductif, nous le verrons. Ce n'est pas la même chose. Je peux décrire mon intériorité, si j'ai le temps d'y réfléchir, si je médite un peu. Tous les bons philosophes demandent la méditation, une méditation philosophique. On médite, on réfléchit, on s'arrête pour essayer de comprendre toute la richesse qui est en nous. C'est ce que nous allons faire dans quelques instants. Une méditation philosophique, hein, comprenons bien. Alors on peut décrire tout ce qu'on ressent au-dedans de nous-mêmes. Et puis on peut analyser. C'est pas la même chose. Décrire et analyser. Et l'analyse alors nous conduit à quelque chose de premier. Dans la démarche réductive, je vais par palier. Et je découvre quelque chose d'élémentaire. Et le quelque chose d'élémentaire n'est ni source, ni principe, ni cause au sens absolu. Il est la condition sine qua non pour que la construction puisse se faire. C'est un fondement. Le fondement, c'est très important parce que si on ébranle les fondements, on sait très bien les répercussions sur tout l'édifice. Hein. C'est ce qui fait que quand il y a des tremblements de terre qui font toucher un peu les fondements d'une maison ou d'un édifice, tout est secoué. Le fondement n'est pas la cause, n'est pas le principe. C'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire un élément qui a une certaine simplicité, qui a sa propre unité, mais qui est de l'ordre du comment, et non pas de l'ordre du pourquoi, si je prends le point de vue des interrogations. Quand je cherche le comment, j'aboutis aux fondations, j'aboutis à l'élément. Dévisser une montre. Nous avons tous fait ça dans notre jeunesse, où un vieux moteur d'automobile le dévissait. Si on n'est pas très attentif à numéroter les pièces, on ne sait plus comment le remonter. On dit comment ? Alors on cherche un spécialiste. Si vous avez bien numéroté les pièces, on peut s'en tirer, pas toujours, parce que l'ordre de reconstruction n'est pas toujours l'ordre qu'on a découvert en dévissant. On dévisse les nœuds, un psychologue dévisse les nœuds pour trouver le fondement, pas la cause. C'est très curieux, ça. Et c'est très intéressant, la méthode réductive, à ce point de vue-là. Parce qu'elle découvre quelque chose de fondamental. La condition sine qua non, à partir de quoi on pourra reconstruire le reste. Donc, vous voyez, il y a quelques petits aspects qu'il faut bien distinguer. La méthode descriptive, la méthode d'analyse, la méthode de réduction. En critique, on est dans une méthode réductive. Donc c'est une gymnastique de l'intelligence différente que la philosophie. C'est différent, c'est autre chose. Il y a des gens qui sont plus géniales du côté critique, et il y a des gens qui sont très peu précis de ce côté-là. Parce que notre intelligence a plus une attitude réaliste ou une attitude réflexive. Ça c'est très net. L'idéal, c'est d'avoir les deux. C'est d'essayer de toujours pouvoir critiquer où l'on en est et de préciser exactement le point de départ de la démarche. Ça, c'est très important. Mais encore une fois, on a un amour plus ou moins grand. N'oublions pas qu'on est très tenté dans notre monde d'aujourd'hui du côté de la critique. Parce que nous avons plusieurs siècles de pensée critique. Quand vous regardez Descartes, il y a tout un aspect critique. Quand vous regardez Kant, alors là, c'est colossal, hein, la critique, parce que ça prend une place primordiale. Si vous n'êtes pas dans la critique, vous ne pourrez rien édifier. Le bulldozer, hein, il arrache des quantités de choses pour arriver à trouver quelque chose de fondamental. Alors il a quelque chose de particulièrement impressionnant. Donc, comprenons que nous sommes normalement inclinés vers la critique. Nous avons plus de peine à découvrir une pensée métaphysique qu'à nous mettre dans la critique. Parce qu'il y a une pente qui est en quelque sorte donnée. Alors, ce sera plus facile pour voir ce que nous avons à faire. Mais comme nous nous plaçons dans une critique de sagesse, évidemment, nous essaierons d'aller le plus loin possible dans la critique. La véritable critique commence d'abord par se critiquer. Puis ensuite, on peut critiquer les autres. Au point de vue philosophique, c'est toujours très important de voir les deux volets. De voir les confusions qui ont eu lieu par un manque de critique. Et puis, essayer plus profondément de se critiquer. Mais quand on voit des critiques d'art, on a toujours envie, surtout quand on connaît les artistes, et qu'on voit les critiques qu'on en fait, on a toujours envie de dire à celui qui est critique d'art, eh bien, faites quelque chose de semblable. Après, vous pourrez critiquer. Vous savez, c'est la vieille attitude du forgeron, quoi. Le forgeron qui forge dans sa forge, il voit des jeunes qui arrivent et qui disent « Oh, mal fait, qu'est-ce qu'il fait ?» Spontanément, sans rien dire, il lui donne le marteau. Allez. Après, vous pourrez critiquer. Les artisans étaient comme ça. Ils savaient très bien que ce qu'ils faisaient était critiquable. Toute œuvre d'art est critiquable. Toujours. Au fond, on n'a le droit de critiquer que quand on se critique. Quelqu'un qui n'est critique d'art sans avoir soi-même produit fait toujours très peur. Le philosophe ne peut critiquer qu'après avoir élaboré sa philosophie. S'il commence par critiquer, il va critiquer au nom de quoi? Et pourquoi va-t-il critiquer? La critique doit être positive et non pas négative. La critique doit libérer le chemin. C'est pour ça que je prenais l'exemple du bulldozer. Bon, On doit tracer une voie. Et alors on enlève toutes les collines et les montagnes qui nous empêchent de passer. Mais on sait où on va. Si vous preniez le bulldozer sans savoir où vous allez, vous direz, mais vous êtes fou, vous détruisez tout. Tandis que si vous savez où aller, ah, je dois aller par là, vous voyez, c'est impossible, il faut nécessairement. Donc la critique est orientée. Et elle est orientée par quoi? Par la philosophie antérieure à la critique. Si la critique est première, elle n'est pas orientée. Alors c'est la destruction pour la destruction. C'est très intéressant de lire les critiques d'art à ce point de vue-là. Ou les critiques de la théologie, ou les critiques de la philosophie, les critiques d'art particulièrement, parce que ceux-là sont particulièrement véhéments. Il y a les critiques des théologiens et les critiques des artistes, c'est les plus violentes. C'est curieux, ils se rejoignent là. Il y a deux aspects de critique très très véhéments. Eh bien, je crois qu'on ne peut faire une véritable critique positive que si elle présuppose qu'on a réalisé quelque chose. Alors à ce moment-là, la critique libère. Elle libère. Et elle permet d'atteindre avec plus de rapidité la vérité ou de mieux comprendre comment il faut réaliser quelque chose. Ça, c'est un sujet très intéressant que je touche là, hein. Un sujet sur lequel on pourrait discuter du reste. Je sais très bien, la position kantienne n'est pas du tout la mienne. Hein. Pour Kant, la critique est première. Alors j'ai dit non. La critique d'art n'est pas première. Quand la critique est première, elle stérilise. Il faut une certaine naïveté pour créer quelque chose d'impossible autrement. Si on n'a pas cette naïveté, on ne fera rien du tout. Si vous avez toujours un grand frère qui est à côté, qui dit « Mais c'est idiot ce que tu fais !» Au bout d'un certain temps, on ne fait plus rien du tout. Un frère aîné, vous voyez, qui n'est pas nécessairement un frère, mais qui est un frère aîné, quoi, et qui est là pour vous taper dessus en disant « Mais non, non, vraiment !» Alors, le gosse qui est plus jeune, il ne peut pas lui dire « Fais quelque chose, tu auras le droit de me critiquer après. » Il ne peut pas lui dire ça, c'est impossible. Mais au fond, ce serait la seule réponse. On a le droit de critiquer dans la mesure où on réalise quelque chose. Et dans la mesure où on a déjà une orientation. Alors à ce moment-là, on peut critiquer. Ce serait tellement plus important, vous voyez, dans les critiques politiques, n'est-ce pas, d'abord de construire quelque chose. Une fois qu'on a construit quelque chose, alors à ce moment-là, on peut critiquer. Mais celui qui critique en premier lieu, il tombe dans la stérilité. C'est très curieux. Je crois que quand la critique est première, il y a une stérilité qui s'établit dans la vie de l'intelligence, dans la vie de la connaissance. C'est peut-être, voyez, ce qui explique pas mal de choses dans notre monde d'aujourd'hui. Nous sommes hyper critiques. Et parce que nous sommes hyper critiques, on sent très bien qu'il y a comme quelque chose qui ne peut plus jaillir avec la même spontanéité, la même liberté, la même simplicité. On a coupé les ailes du petit moineau. Et c'est très difficile après pour lui de voler. Alors que quand la critique est seconde, ah c'est excellent, ça permet d'aller plus loin. La critique ne nous donne pas la finalité de notre vie intellectuelle. La critique ne nous donne pas la finalité de notre œuvre d'art. Et donc, c'est en ce sens-là qu'elle n'est pas féconde. C'est la finalité qui donne la fécondité et qui permet justement de toujours réaliser quelque chose. Quelqu'un qui n'est plus finalisé tombera dans cette attitude de réflexion critique et n'avancera plus. Vous voyez, c'est pour ça, encore une fois, et je crois que c'est très important de comprendre que la critique n'est jamais première. Elle présuppose toujours une connaissance, une œuvre, quelque chose qu'on a réalisé. Alors à ce moment-là, on peut critiquer. Mais la critique, quand elle vient en premier lieu, elle ne nous donne pas le sens et la profondeur de l'orientation qu'on doit prendre. C'est le propre de la méthode réductive. Elle présuppose déjà quelque chose qui est atteint. Et on essaie, un peu comme en archéologie, vous voyez, il y aurait des exemples avec l'archéologue qui sont très intéressants. L'archéologue ne construit pas. Pour être un archéologue et découvrir quelque chose, il faut quand même quelqu'un qui ait construit avant une villa. Un archéologue qui se met là où on n'a rien construit, il prend une méthode critique, il enlève les couches successives, et puis il se trompe, on n'a rien construit. Ça, c'est le critique en premier lieu. La critique en premier lieu, elle ne trouve rien. Elle ne peut rien trouver. L'archéologue découvre quelque chose en découvrant les couches successives pour découvrir enfin le dernier moment. La dernière petite maison qui a été construite là, le dernier temple qui a été construit là, la dernière synagogue qui a été construite là. Et s'il continuait ses recherches après la première, il pourrait chercher indéfiniment. Il présuppose une construction. La connaissance critique présuppose une première connaissance. Donc, elle présuppose une philosophie. Et alors, elle va aiguiser notre intelligence. Ça, c'est sûr. Un homme critique, c'est toujours un peu terrible. Parce qu'il voit tout de suite les confusions. Immédiatement. Il voit tout de suite les faux nœuds. Comme un bon psychologue s'aperçoit immédiatement des nœuds qui arrêtent. Et qui empêchent d'aller plus loin. Qui alourdissent. Quelqu'un qui a un sens de la critique, au sens profond, alors celui-là voit tout de suite les confusions, les mésalliances, les alliances mauvaises, imaginatives, les conclusions anticipées, les a priori, qui empêchent d'avancer. Alors, le critique, il coupe avec netteté, mais il coupe bien. Et il doit découper bien pour découvrir l'organisation profonde de l'intelligence. À ce point de vue-là, la critique, c'est passionnant. D'essayer de découvrir comment notre intelligence progresse, comment elle assimile, comment notre intelligence organise par elle-même. C'est l'aspect le plus vital qui est en nous. C'est le fondement de toute notre vie spirituelle, la connaissance. Alors, c'est très important de saisir ce qu'il y a de sain, donc d'organique, de naturel dans notre vie intellectuelle. Et ne pas confondre l'artificiel et le naturel. Et au fond, c'est la critique qui doit découvrir la différence entre l'artificiel et le naturel. L'artificiel, vous voyez ce que c'est la logique. On doit découvrir ce qui est le propre de la logique. La logique est très importante, hein, c'est très important la logique. Mais la logique n'est pas la vie de l'intelligence. La logique n'est pas la connaissance mathématique et elle n'est pas la connaissance philosophique. C'est autre chose. Il y a un petit côté artificiel de la logique. Saint Thomas disait que c'était l'art des arts. C'est très beau. Il dit ça du reste à la suite d'Aristote. C'est l'art des arts. La logique, c'est l'art de la vie de l'intelligence. Mais ce n'est pas la vie de l'intelligence. Et le jour où vous confondez logique et vie de l'intelligence, c'est un été noir pour la vie de l'intelligence. Ce qui était bon, excellent, pour aider la vie de l'intelligence à pouvoir avoir un peu plus de lucidité et mieux s'organiser, eh bien, ce qui était là pour aider devient un obstacle, devient comme un mur. La logique peut être comme un mur qui arrête le développement de l'intelligence, qui empêche le développement de l'intelligence. Alors, c'est tout cela que doit nous apporter la logique, la critique, vous voyez. C'est quand même très important. Cette lucidité profond de notre vie intellectuelle que doit apporter la critique. Donc, maintenant, commençons. Premier aspect, essayez de comprendre, dans un aspect de réflexion, la diversité et l'étendue de nos connaissances humaines. On est d'une complexité invraisemblable dans nos connaissances humaines. C'est pour ça que c'est si difficile, hein, d'entrer dans tel ou tel secteur qui n'est pas le nôtre. Parce qu'on s'aperçoit immédiatement que même le langage est différent. Et que la pensée, par le fait même, est tout à fait différente. Alors, je voudrais simplement, avec vous, faire cet inventaire. Et puis, nous poserons, la fois prochaine, la question à quel endroit pouvons-nous placer notre réflexion critique en premier lieu? Qu'est-ce qui est critiquable en premier lieu? C'est très important. Descartes s'est trompé là, on est bien obligé de le dire. Pas pour le plaisir de le critiquer, puisque lui-même critiquait les autres, mais il est critiquable, parce qu'il n'a pas compris suffisamment qu'est-ce qu'est de premier lieu critiquable dans toute notre, dans nos connaissances. Alors commençons par nos connaissances les plus simples que nous sommes habitués à connaître, notre vision. Première connaissance, c'est la vision. Et à côté de la vision, le toucher. Ce sont deux connaissances tout à fait fondamentales. Le toucher, c'est la connaissance la plus fondamentale. Ça, c'est. Je crois que tout le monde l'admet. C'est une connaissance. Toucher, c'est une connaissance. Et c'est une connaissance très, très fondamentale. Le toucher me fait comprendre ce qui est rugueux. Vous savez bien, quand on touche, surtout dans la nuit, hein. Dans la nuit, on a un toucher particulièrement développé. Vous savez. Quand vous êtes dans un labyrinthe que vous ne connaissez pas et que vous voulez quand même connaître quelque chose, on doit tous faire cette petite expérience, hein, pour découvrir ce que c'est que le toucher. Un excellent laboratoire philosophique. On se mettrait dans un labyrinthe et puis on essaierait de dire, puis on dirait toucher un peu le mur. Déjà, toucher le mur, c'est déjà quelque chose. Parce que quand rien à droite, à gauche, parce que jusqu'où on peut aller, au moins, déjà, les pieds, on enlève ses souliers pour être plus sûr de bien toucher le sol, hein, parce qu'il faut toucher. Puis à la tête, on ne sent rien au-dessus. C'est très curieux que le toucher me situe. Et c'est terrible quand il n'y a que le toucher. On peut même arriver à la folie. Vous savez que c'est une épreuve, hein. On a fait des expériences au Canada, je ne sais pas si c'est particulièrement favorable, on a fait des expériences au Canada d'isoler quelqu'un de tous les sens, mais il n'y a plus que le toucher. Combien de temps l'être humain peut-il rester conscient uniquement avec le toucher? Pas tellement longtemps, je ne sais plus le nombre d'heures, mais 60, 70, pas plus. Et ce qui est très curieux, c'est que la femme résiste plus longtemps que l'homme. Ça, c'est un fait. Au moins 20 heures de plus, je crois. Vous reconnaissez ça. C'est une chose assez remarquable. C'est très intéressant, je trouve ça, de voir que cette connaissance fondamentale et première, le vieil Aristote disait, le toucher, c'est le sens de la vie. C'est vrai, c'est le sens de la vie. C'est sans doute pour ça que la femme a un sens plus réaliste de la vie que l'homme. Et alors, le toucher, chez elle, lui permet de rester plus longtemps. Qu'est-ce qui vient corriger le toucher? Parce que c'est vrai que je n'ai pas fait cette expérience. On ne m'a pas enfermé dans une petite boîte, mis pour qu'on n'ait rien d'autre. Vous voyez, on dit qu'il n'y a que le toucher, mais il y a l'imagination. Et c'est à cause de l'imagination que, de fait, on ne peut pas résister trop longtemps. Parce que quand il n'y a que le toucher et qu'on ne voit rien, alors l'imagination bat la campagne. doit être assez affolant. Alors la femme doit avoir là quelque chose qui lui permet de rester plus longtemps de sang-froid. Parce qu'elle a un sang plus chaud. Alors de rester plus longtemps de sang-froid. N'est-ce pas ? De rester plus longtemps dans cette attitude. Qu'est-ce qui corrige le toucher ? C'est la vision. Ce sont les deux sens les plus complémentaires. Les plus opposés, les plus complémentaires. Il y a certaines personnes qui ont une mémoire du toucher et d'autres personnes qui ont surtout une mémoire de la vue. Dans notre monde occidental, nous avons surtout une mémoire de la vue. Dans notre monde occidental, on a développé énormément le point de vue de la vision, beaucoup plus que le toucher. Peut-être parce qu'on porte des souliers, alors on a toute une partie du toucher, n'est-ce pas, qui se perd, qui s'atrophie, puisqu'on n'a plus ça. Alors que dans l'Afrique, où les gamins sont toujours pieds nus, le toucher est beaucoup plus fort. Moi, ça m'a frappé énormément. La première fois que j'étais en Afrique, j'ai essayé de comprendre un peu, d'interroger, il faut interroger, c'est-à-dire regarder. On voit que les gens touchent beaucoup plus. Voyez, dans un musée, où maintenant on ne peut plus toucher les statues, on a peur qu'on les vole. Alors quand vous mettez à les toucher, tout de suite le signal d'alarme. Hein. C'est très gênant de ne pas toucher une statue. Moi ça me gêne beaucoup. Il y a quelque chose que je ne connais pas dans la statue, elle est faite pour qu'on la touche quand même. Si c'est du bois, si c'est de la pierre, c'est quand même très important. Un sculpteur, mais il sculpte avec ses mains, c'est bien évident. Il sculpte avec ses mains, mais avec son toucher. Il a besoin de ça, de passer, de repasser. Alors, il y a les autres sens, la variété des sens. Donc, il y a une mémoire qui provient de la vue, il y a une mémoire qui provient du toucher. Il y a l'ouïe. Il est évident que certaines personnes ont un ouïe bien plus développé que d'autres. Je connaissais quelqu'un qui entendait les vers travailler le bois. Et c'était vrai, c'est authentique. C'est pas de la blague. Entendez le ver travaillant le bois. Une ouïe d'une finesse, d'une acuité extraordinaire. On a fait l'expérience plusieurs fois, on a voulu voir, c'est juste de la blague. Regardez. Il y en avait. L'ouïe, il y a la mémoire aussi de l'ouïe. Il y a des gens qui ont une mémoire avant tout de l'ouïe. L'ouïe est liée à la parole, au son, à l'harmonie. C'est toute une connaissance de l'univers que j'ai par l'ouïe. La vision aussi, c'est bien évident, avant tout. Je n'ai pas la connaissance, du moins je ne suis pas encore allé là-bas, mais je n'ai pas la connaissance de la lune par le toucher. Ceux qui ont été curieux. Il y a des réalités qu'on ne connaît pas. Les soucoupes volantes, on ne les a jamais connues par le toucher. Toujours regarder ça. Mon petite enquête était là-dessus. Ah, la vision. Oh, oui, la vision, mais la vision. C'est quand on est dans le désert, on a facilement des hallucinations. C'est très curieux. Alors, l'odorat, le sens de la finalité. Regardez dans l'Écriture, je courais à l'odeur de ses pas. C'est le sens de la finalité, l'odorat. Mais dans notre monde d'aujourd'hui, aussi dans notre monde occidental, l'odorat diminue. Ça demeure, heureusement, qu'on peut encore sentir du bon vin. Qu'on peut encore sentir certaines choses. C'est important, parce que celui qui n'a plus du tout d'odorat n'a plus de goût. Il ne fait plus manger. Vous savez, cette grosse expérience que donnait Dumas dans son traité de psychologie, je ne sais pas si on l'écrit encore aujourd'hui de cette façon-là, mais Dumas dit dans son gros traité de psychologie, bander les yeux de quelqu'un, boucher-lui le nez, versez-lui du café, et demandez-lui si c'est du thé. Il ne saura pas vous répondre. C'est très curieux. C'est pour les amateurs de thé que je dis ça. On leur montrer que le thé est commandé par l'odorat beaucoup plus que le café. Les amateurs de thé, c'est l'odorat, c'est évident. Et le goût, et l'odorat est le point de vue du regard. Le goût est conditionné, pour ne pas dire presque souvent déterminé. Je vous ai dit, c'est dit textuellement dans ce gros bouquin qui est classique de Dumas sur la psychologie, c'est le point de départ du reste. Et c'est très intéressant de voir ça. Faites l'expérience à quelqu'un. Surtout quelqu'un spécialiste en thé. Alors il ne voudra pas. Hein. Il dira non, parce que ça détruirait son idole. N'est-ce pas? C'est évident. Ça détruirait, parce qu'il ne pourrait plus connaître les deux. Donc nous avons nos sens. Hein. La connaissance humaine, c'est déjà assez complexe. Les sens, nos sensations. Et dans les sensations, il y a une unité. On fait des harmonies, des comparaisons, des analogies. C'est bien évident, et ça c'est les artistes qui font ça, merveilleusement, entre le goût et la vision, entre le toucher et l'ouïe. On peut faire des analogies. Quand vous avez un sens plus développé que les autres, c'est ce sens-là qui vous permet de mieux comprendre les autres. Alors ça, vous voyez très fort, vous voyez, chez des aveugles, combien le sens du toucher s'est développé. Chez des aveugles, combien le sens de l'ouïe s'est développé. Après, nous avons une connaissance qui fait l'unité de ces différentes sensations, puisque c'est comme ça qu'on peut faire des comparaisons. Et Aristote l'appelle... Je dis bien Aristote, parce que maintenant ça n'a plus du tout le même sens, le sens commun. Le sensus communis, le sens commun, c'est ce qui relie au niveau des sensations, les diverses sensations, et qui permet de faire des comparaisons, des jeux entre ces diverses comparaisons, de voir les harmonies qui existent entre cela. Je n'insiste pas, mais c'est très intéressant. Le sens commun d'Aristote. Vous voyez, c'est pas du tout ce qu'on appelle le sens commun. Il manque de sens commun. Descartes a employé le sens commun dans une façon tout à fait différente. Ça relève de Descartes.